vraiment sympa. Cette avancée comme ça. Prodigieuse. Et vers la croix glorieuse. Et ça a été un grand jour aujourd'hui. Et demain, sa vitesse encore, ça fonctionnera à la même vitesse. Il est supérieur parce que maintenant on a quand même une âme d'élite en plus. Le Sacré-Cœur de Jésus vient à notre secours. Avec Francesco, il n'y a pas photo, ça va pourquoi. C'est merveilleux, c'est vrai. Sans Francesco, il n'y avait pas tout ce qu'il faut. C'est vrai.
Bonjour tout le monde.
Bonjour tout ça.
L'air de rien, ça fait quand même plus de 3 ans qu'on s'était pas retrouvé entre nous. Ici Francesco, vous deux, Jean-Claude, c'est vrai. Il y a eu des périodes d'épreuve, de croix, hein, pendant 2 ans, le cancer, machin, c'est pas facile. Hein. Traverser de... Mais ça fait quand même... Mais ces 3 ans sont vite passés, finalement. Hein. On a été prévenus, de toute façon, vous vous rappelez, on l'avait dit. Hein. C'est peut-être probablement la dernière fois qu'on se voit pendant des années. On avait dit ça en 2015. Mais là, maintenant, faut tracer dans l'invisible. A raison, Jéricho. Mais Jéricho invisible aussi. Hein. Donc, d'être... Ce travail qu'on fait en commun avec le monde invisible est très important. C'est ce qu'on dit dans le credo, après tout, hein, je crois en Dieu, créateur du monde visible et invisible. C'est vrai que c'est curieux, hein, que de travailler avec le monde invisible, c'est une habitude qui a été perdue. Saint Vincent de Paul travaillait avec l'invisible. Enfin, l'Église catholique a toujours fonctionné avec le monde invisible. C'est une coopération quand même. Ça ne veut pas dire qu'il faut nécessairement avoir des visions ou des messages. C'est pas ça. Mais qu'on fonctionne avec le monde invisible, ça oui. Parce que l'Église, quand même, c'est une Église, elle est avant tout, elle est invisible. Et substantiellement, l'Église est invisible. Dans sa personne, si vous voulez, dans son hypostase, dans sa subsistance, elle est invisible. Dans son origine, elle est invisible. Dans sa fin, elle est invisible. Dans son acte, elle est invisible. Dans sa lumière, elle est invisible aussi. Elle est visible à travers bon, des représentants, quoi. C'est les sacrements hein, qui rendent l'Église visible. Et puis l'Église, c'est nous. Qui est marqué tout le temps hein, dans la Bible, dans l'Ancien, le Nouveau Testament, surtout, et dans l'Apocalypse, n'en parlons pas. Vous êtes le temple, hein, vous êtes l'Église de Dieu. Votre corps est le temple. Et voilà. Il faut travailler avec le monde intérieur qui est en nous, parce que le monde intérieur qui est en nous, C'est l'Église indivise. Il y a quelque chose en nous qui est un, qui est indivisible. Et c'est à cause de cette propriété métaphysique de notre vie intérieure qu'on peut porter l'Église indivise, l'indivisibilité de l'Église. Porter et donc être principe. Parce que nous subsistons dans le Verbe de Dieu. Hein, voilà. Pendant 10 ans, vous m'avez entendu dire transverbération, union hypostatique. Et aujourd'hui, il faut reculer pour avoir une base encore plus. Une base arrière, si c'est possible. Une base antécédente, comme dit saint François de Sales. Subsistance dans le Verbe. Le fait que je subsiste dans le Verbe de Dieu. Je subsiste dans le Verbe de Dieu. La grâce est un habitus entitatif qui fait que je subsiste dans le Verbe de Dieu. Une des propriétés de mon ousia, de ma substance, c'est la subsistance dans le Verbe de Dieu. Donc il y a une nouvelle expression qu'il faut se rappeler, c'est subsistance dans le Verbe. La grâce sanctifiante est, on dit ceci, est mon corps, et on dit la grâce sanctifiante est subsistance dans le Verbe de Dieu. C'est drôlement bien, vous savez, d'entendre ça, et puis les yeux ouverts, de contempler ce que ça veut dire. La grâce sanctifiante est. Et dès que vous dites est, c'est Dieu. Est. Je suis. La grâce sanctifiante est. C'est Dieu. Je suis. Dans le Verbe de Dieu. La grâce sanctifiante est. C'est Dieu. Qui fait que je suis transplanté, que je suis inscrit substantiellement dans la personne du Verbe de Dieu, dans la personne de la vie divine de Dieu lui-même, de la vie intérieure de Dieu. Parce que Dieu est un, voilà, il est le Père, il est l'Époux. Mais il est vie, hein, il y a une unité intérieure de vie de Dieu, c'est le Fils, c'est le Verbe. C'est ce mouvement, cette spensalité, c'est la deuxième personne de la très sainte Trinité, quelque chose de prodigieux dans la lumière. Eh bien, je subsiste dans le Verbe de Dieu dès que j'ai la grâce sanctifiante. D'ailleurs, c'est à ce signe-là que je peux avoir peut-être un petit signe que je suis dans la grâce, comme disait sainte Jeanne d'Arc. Personne ne peut savoir s'il est en état de grâce. Parce que Cochon lui a dressé un piège. Si vous êtes en état de grâce, hein? Alors elle a dit, mais personne ne peut savoir si c'est en état de grâce, si je ne suis pas en état de grâce que le Seigneur m'y mette. Si je suis, qu'il lui soit rendu grâce. Marrant que Cochon, qui était le principe, le grand supérieur de tous les intellectuels du monde, responsable de la Sorbonne à Paris, avait oublié ça, quoi. Que la grâce sanctifiante, c'est la subsistance dans le Verbe de Dieu. Et une fois que je subsiste dans le Verbe de Dieu, ben, ça c'est dans le fait que c'est le je suis, l'être de Dieu est tout intérieur, puisqu'il déploie sa lumière, et une des propriétés de sa lumière, l'océan de Dieu, substantielle, c'est la subsistance. Il subsiste éternellement. Eh bien, par la grâce sanctifiante, je subsiste dans le Verbe de Dieu. Alors du coup, c'est le Verbe de Dieu qui me fait qui subsiste et qui me porte, qui porte mon existence en confondant son existence, son osia, avec mon existence. C'est bien que quand je dis « je suis », j'existe. et que je réalise que moi je suis dans je suis de Dieu, je réalise dans ma lumière, dans ma contemplation par l'air, que surnaturellement peut émaner une invasion surnaturelle de la vie lumineuse vivante de Dieu en moi. Et que je peux suivre du coup Dieu partout où il va, et il va dans l'agneau. Et du coup je peux aller jusqu'à la transverbération, de passer de la subsistance dans le Verbe de Dieu à la transverbération, c'est le chemin de l'Église catholique. C'est le chemin que l'Église Saint-Père de l'Immaculée nous déploie devant nous. Passer de la subsistance dans le Verbe de Dieu à la transverbération. C'est pas la même chose, vous comprenez bien. Adam et Ève étaient dans la subsistance dans le Verbe de Dieu, dans la grâce sanctifiante. Marie est dans la transverbération avec Joseph. Vous me direz, c'est ce credo, je crois, l'Église visible, créateur du Dieu, monde visible et invisible. Le credo, c'est un chemin, c'est une ligne pure dans laquelle je m'inscris pour que je puisse regarder ce que c'est, parce que ce sont des réalités inconnues quand même. C'est vrai? La foi nous en donne des réalités qui ne sont pas connues au Bororo. C'est vrai. C'est par les prophètes qu'on a été enseigné par là. L'enseignement de Dieu est venu jusqu'à nous par... Nous, on n'a pas l'habitude de ça, parce qu'on a quand même deux ou trois générations là de communication hérétique de la foi. Alors, tu fais le catéchisme, tu es un gosse. Alors, les enfants, c'est vous qui allez nous dire. Et c'est les enfants qui doivent dire quelle est la foi. Ils n'ont jamais entendu. Comment le diraient-ils? On ne leur donne pas, on ne leur communique pas la foi. C'est eux qui doivent découvrir ce que c'est que l'union avec Dieu. Ils disent des choses très très amusantes, très intéressantes, très simples, très enfantines, très justes souvent. Mais ce n'est jamais la foi. Parce que la foi se donne par un enseignement de l'Église, par les prophètes. Elle se communique. Si tu ne communiques pas, tu n'as pas la foi. Quelqu'un qui n'a pas la communication de la doctrine ne peut pas avoir la foi. La foi ne se découvre pas comme ça. Primo, primé, pas du tout. Alors les enfants du catéchisme passent 5 ans comme ça. Allez, mes enfants, alors voilà, on va prendre une paire de ciseaux, on va découper des petits. Et voilà, et qu'est-ce que c'est pour vous, Dieu? Ah ben, Dieu, c'est ci, Dieu, c'est l'amour, Dieu, c'est là. Et, ah, c'est très bien, et toi, qu'est-ce que tu dis? Tati, tata, et le catéchisme, c'est ça. Comment est-ce que les enfants vont dire qu'il y a eu le péché originel? Comment est-ce que les enfants vont découvrir ce que c'est que l'inspiration passive, hein, Christ? Comment les enfants vont dire que par la grâce sanctifiante nous subsistons dans le Verbe de Dieu? Et donc, ça fait deux générations, ces enfants-là vont faire des enfants, et on se trouve maintenant à la troisième génération. Donc il faut redire ces paroles de la doctrine, de l'enseignement des prophètes, et du Saint-Père, et du ciel. Et parce que ces paroles-là, elles sont données parce qu'elles correspondent à des réalités. Et elle nous porte à l'intérieur de Dieu, directement. C'est extraordinaire, moi, je trouve, personnellement, hein, de savoir que par la grâce sanctifiante, je subsiste dans le Verbe. Donc, c'est suffisant, c'est pas compliqué. Si je suis englouti dans la grâce sanctifiante qui est en moi, par le baptême, je m'y engloutis merveilleusement, complètement, j'y disparais, eh bien, je suis subsistance dans le Verbe. C'est facile à contempler ça. En prononçant les paroles mentalement, par exemple. Et puis de là, par l'oraison, bien sûr, unis à ce verbe de Dieu qui prend chair pour être déchiré, pour être un amour éternellement déchiré, quoi, c'est-à-dire embrassant complètement la passivité substantielle d'amour elle-même, embrassant l'Esprit Saint, si vous préférez. Alors, si je suis happé par ça, derrière de Dieu, il y a transverpération. Et Dieu ne peut rejoindre Dieu que dans... à partir du moment où Dieu nous a créés, comme ça, dans la subsistance, là, pour quand même pas oublier une chose aussi. Un enfant, on ne peut pas le deviner au catéchisme, ça. Hein? Ça s'appelle la maïotique. La vérité va sortir à force qu'on pose des questions aux enfants. Et la vérité va sortir de leur bouche. C'est comme ça qu'on enseigne le catéchisme. Hein? C'est tellement absurde. C'est pas normal de dire ça, voyez. C'est pas seulement pas normal, mais ça nous empêche, nous, parce qu'on est dans une... Or, les enfants sont pratiquement les personnes humaines sur la Terre qui sont les plus proches de Dieu. Alors, voyez comment on est handicapé, quoi. Parce que nous, on est quand même pas psy. Il y a un reste du cœur spirituel chez l'enfant. Chez les adultes, c'est fini. On est psy à 100%. À peu près. Surtout les gâteaux. Mais bon, c'est pas grave, on le sait. Une fois qu'on le sait, bon, bah, très bien, on ne peut servir que d'instrument. Mais j'ai su, au fond, quand Dieu, quand l'amour de Dieu, quand l'amour éternel de Dieu nous a créés pour subsister, il nous a créés avec la grâce sanctifiante. Faut quand même pas l'oublier, ça. La sagesse créatrice de Dieu nous a créés avant le péché originel, dans la grâce sanctifiante. Donc l'origine de la nature humaine, c'est une subsistance dans le Verbe de Dieu. C'est la grâce sanctifiante. Adam et Ève étaient subsistés dans le Verbe de Dieu par la grâce sanctifiante. C'était des saints. Ils n'ont pas été créés hommes et femmes, ils ont été créés des hommes et des femmes complètement envahis par la sainteté intérieure de Dieu. Et comme la sève irrigue un arbre, irriguée par la personne du Verbe, l'intériorité de la personne du Verbe de Dieu, c'est-à-dire la responsabilité, la vie. L'amour à l'intérieur de Dieu, c'est la deuxième personne de la Sainte Trinité. Quand Dieu nous a créé la nature humaine, elle l'a créée dans la grâce sanctifiante. Et si on n'est pas créé dans, si on n'est pas dans la grâce sanctifiante, on est à des milliards de kilomètres de l'acte créateur de Dieu sur l'être humain. Ça, l'enfant ne peut pas le deviner. Quelqu'un qui aime Dieu, c'est quelqu'un qui est gentil. C'est tout. Si quelqu'un n'est pas gentil, ah ben ça, ça ne vient pas de Dieu. Ah, tu es sûr. Donc, c'est la subsistance dans le Verbe de Dieu. Je vous assure, c'est important de retenir ces vérités, quoi, du monde visible et invisible créé par Dieu. Parce que si je subsiste dans le Verbe de Dieu, c'est extraordinaire. Je vois bien que je suis. J'existe. Et quand, dès que Jésus dit ceci, c'est Dieu, hein, c'est Dieu. Le est de Jésus, c'est Dieu. Mon corps, c'est Dieu agneau. Aussitôt. Dieu s'est fait agneau. Dieu s'est fait agneau parce que quand il nous a créé dans la grâce sanctifiante, aussitôt, on est vraiment à l'intérieur dans le sein d'amour éternel du Père, enraciné comme l'arbre dans sa, plongé dans sa terre, hein, si je puis dire. Alors la sève vient du Père. Et l'arbre a été arraché au sein du Père. Donc aussitôt qu'il y a eu le péché originel, aussitôt qu'il y a eu la création de l'homme et de la femme, aussitôt il y avait évidemment la perspective immédiate, complète, substantielle et en plénitude du zygosime et ce même de la fin. Et donc, quelque part, Dieu en créant a immédiatement l'intention créatrice de la croix. Consoler le Père, parce que quand on déracine de l'intérieur de l'amour, si subtil, si délicat, si substantiellement délicat de Dieu, il faut absolument une consolation supérieure, hein, la place vacante. Et voilà, et donc il faut bien sûr que la vie de Dieu se mobilise pour aller jusque dans cette. Et c'est pour ça que dès le départ, Dieu est agneau de Dieu, à cause du Père. Et si Dieu est mort sur la croix, c'est pas à cause de nous, c'est pas pour nous. C'est pas pour nous libérer, c'est pas pour nous sauver, c'est pas pour nous pardonner, c'est pas pour ça. C'est parce qu'il aime le Père, c'est uniquement à cause de ça. Et c'est comme moi, j'ai entendu tellement de fois, des centaines de fois, comme ça, dans les studiums de formation à la lumière, c'est naturel de la foi, dans l'église, des pères, etc., docteurs. C'est par amour pour le Père qui a la sagesse de la croix. Et si c'était pas par amour pour le Père, Jésus n'aurait pas. Jésus ne pouvait pas mourir. Ça, c'est une révélation extraordinaire de la Bible, commentée par Jésus aux apôtres. C'est pour ça que il y a tas de passages de l'Évangile qui sont incompréhensibles si on n'a pas cette explication que Jésus a donnée aux apôtres. Si ce n'était pas par amour pour le Père, il ne serait pas mort. Pourquoi ? Parce que Dieu ne peut pas mourir dans son union hypostatique. L'union hypostatique est indéchirable. On ne peut pas déchirer l'union hypostatique. On ne peut pas introduire la mort à l'intérieur de l'union hypostatique. C'est strictement impossible. Saint Augustin explique que l'unité qu'il y a entre la personne divine et la personne humaine est tellement forte que la personne disparaît elle-même et qu'elle n'a plus qu'une. Donc l'unité de l'union hypostatique d'amour est plus forte que l'unité qu'il y a entre les personnes de la très sainte Trinité. Autrement dit, Jésus ne peut pas mourir. Et s'il meurt, si son âme a été arrachée comme ça, dans sa subsistance, dans sa subsistance de personne, dans sa subsistance hypostatique pour le coup, qu'elle a été arrachée à sa subsistance hypostatique dans la matière du corps inerte pour une inspiration passive. Ça n'est possible. Ça n'est possible que parce que il a donné sa vie sur la croix par amour pour le Père. Vous voyez, c'est pas bien de dire Jésus est mort pour nous. Comme si. C'est par amour pour le Père qu'il est mort sur la croix. Et il faut que le monde sache que c'est par amour pour le Père. Parce que d'avance, il sait que la substance dans le Verbe va être arrachée au Père. C'est pas vraiment une blessure, parce qu'on ne peut pas blesser quelque part Dieu, vous savez. Mais en tout cas, une place vacante. Qui doit être comblé par le paraclet. Et ça n'est possible que si un voile se déchire. La mort. pas à pénétrer en Dieu à cause du péché, donc il faut qu'un voile se déchire et que la mort pénètre en Dieu lui-même dans la vie intérieure, hypostatique, éternelle de Dieu. Et voilà, c'est la sagesse de la croix. C'est nécessaire. C'est absolument nécessaire. C'est pas facultatif. Et il aime le Père. Alors pour nous, c'est trop fort de comprendre ça, parce que de voir ça, de contempler ça, que Jésus, c'est par amour pour le Père qui est en train de mourir sur la croix. Alors du coup, effectivement, il y a un détachement qui est arraché, c'est-à-dire qui est déchiré. Et toute la grâce sanctifiante dans sa substance est déchirée, elle aussi transverpération de l'Église tout entière. Tout est déchiré pour qu'on puisse s'engloutir dans l'amour non reçu du Père par le péché, c'est vrai. Fauteuil trop profond, j'appelle. Eh bien, écoutez, c'est bien parce que on arrive à la fin des temps, ou du moins à la porte des trois derniers sauts de l'Apocalypse, et donc on. Des portes doivent s'ouvrir, cette fois-ci venues de l'intériorité éternelle de Dieu. Sponsalité, amour, inspiration. Il descend vers nous, il fait surgir dans la fécondité divine de la grâce sanctifiante de la fin un chemin, une ligne pure. Cette ligne pure, ça s'appelle la croix glorieuse. Des portes, c'est une porte, je suis, Dieu est la croix glorieuse, il est la porte. Il y a une porte entre Dieu et Dieu. Parce qu'une place a été restée vacante, et donc il y a une porte. Dalet, ayez Dalet, je suis la porte. Et cette porte, vous voyez, qui est à la frontière entre Dieu et Dieu, fait qu'on peut passer de Dieu à Dieu et de Dieu à Dieu. Je subsiste dans le Verbe et je passe à la transactuation, si vous voulez, à la respiration passive, au paraclet. Et du paraclet, je passe à la transverbération. Et tout ça, c'est un mouvement à l'intérieur de Dieu, dans le sein éternel du Père, et c'est à cause de ça que le Père n'est jamais envoyé. Et c'est pour ça qu'on dit la troisième messe. Voyez, c'est de dire trois messes par jour, c'est absolument nécessaire. Si on ne fait pas les trois messes, nous sommes perdus. Je peux vous le dire. C'est terminé. Point final. Il n'y a plus aucune espérance. C'est terminé. Bon, ici, tout le monde comprend pourquoi, je pense. Oui. À quel point c'est vrai de dire ça. C'est pour ça que cette troisième messe est importante, et c'est trop fort de vivre ça quoi, après cet après-midi à Sainte-Montaine. Après avoir réfléchi. On a érigé au Liban avec Francesco et Jean-Marc, on a érigé au Liban une magnifique croix de 73 mètres, 80, Hein, tu te rappelles?
Ça continue, ils en ont fait une
autre. Alors,
en Arménie.
Alors, il y en a deux autres qui sont censés être. On a béni le socle. Avec François et Jésus. Elles sont pas montées, mais enfin, il y a la bénédiction du socle. Pour l'instant, il y en a une seulement. L'autre, elle n'est pas montée. C'est des montages photographiques. Elle n'est pas montée en réel. Sur Internet, on voit un montage photographique. Le projet, si tu préfères, dans le paysage. Eh bien, c'est bien si. Si un jour il y en a 3, 4, 5, 6, 12. Mais c'est drôlement important que les croix soient aussi invisibles. Très très important. Il faut qu'elles soient aussi invisibles. Parce que. Pourquoi il faut qu'elles soient invisibles? Parce que. C'est à cause de la transverbération, du mystère même de la croix glorieuse. Le démon n'a pas vu ça. Quand Jésus est allé s'engloutir dans le baiser du véritable amour, dans le sein d'amour du Père éternel, en détresse, enfin, c'est pas peut-être pas le mot qu'il faut dire, en manque d'amour, hein, c'est sûr, de la part de toutes les créatures surnaturellement surélevées à l'amour avec lui. Le démon n'a pas vu dans l'invisibilité de la croix que Jésus crée à l'instant même de sa mort le monde, l'univers de la résurrection. L'univers de la résurrection pendant les 36 heures de la mort de Jésus est un univers invisible. C'est l'âme de Jésus et l'âme de Saint Joseph qui sont entièrement engloutis l'un dans l'autre pour faire émaner avec l'opération du Saint-Esprit à partir de la foi de Marie au pied de la croix la création d'un monde nouveau, c'est-à-dire de tous les espaces du ciel de la résurrection qui n'existait pas avant. Et ça, le démon ne peut pas le voir, ça. Le démon n'a pas vu ce qui s'est passé pendant ces 36 heures. Il n'a pas vu ce qui s'est passé dans le ciel. Il y a eu la véritable communication de la lumière de gloire à la nature humaine tout entière et aussi la création du monde de la résurrection. Et c'est seulement après qu'il y a eu la résurrection de la chair de Jésus, hein. Pas l'oublier, ça n'a pas été tout de suite. Donc Joseph, la nature humaine qui est la nôtre, est ressuscité dans la chair. Jésus est ressuscité dans la chair, c'est sûr. Engendré par le Père, dans la foi du corps spirituel de l'Immaculée Conception, subsistance de l'épousé, à plénitude d'actuation, de subsistance elle-même. C'est ça la transverbération. Alors du coup, elle dit oui, et du coup, le Père engendre le monde de la résurrection. Et le monde de la résurrection nous emporte dans le monde invisible de la croix glorieuse. C'est bien quand on célèbre la messe, on célèbre la mort de Jésus, on est porté dans le monde de la résurrection, alors que Jésus n'est toujours pas ressuscité. Il est ressuscité invisiblement, Saint-Joseph aussi, invisiblement dans l'âme. Mais leur corps n'est pas, la matière vivante, leur sang n'est pas repris, assumé et transformé dans le monde nouveau, dans une création nouvelle de résurrection, d'agilité, de subtilité, de gloire et d'éternité. Leur corps humain, physique si vous préférez, n'est pas devenu encore Dieu lui-même. ce passage du monde invisible au monde visible, de la résurrection de la chair, a son importance, on est d'accord, pour la fin des temps. Mais quand on célèbre la messe, oui, il y a des gens qui vont se bagarrer, les intégristes vont dire, ouais, c'est les intégristes, c'est un sacrifice, c'est le sacrifice de Jésus, et puis c'est tout. Et puis les progressistes vont dire, mais non, le sacrifice c'est fini, c'est une fois pour toutes, c'est Jésus ressuscité, que nous, c'est Jésus ressuscité, nous nous nourrissons de Jésus ressuscité, de la résurrection. Cette bagarre est complètement absurde. À cause de quoi? À cause de la croix glorieuse, parce que Jésus est mort par amour pour le Père. Son union apostatique est déchirée quand même, faut quand même pas l'oublier. Et donc, effectivement, à l'instant même où Marie crie avec lui, par la foi, dans son union hypostatique, dans son union, pardon, assumée avec la paternité engendrée, incrée du Saint de Dieu le Père, elle engendre dans le Verbe de Dieu le monde de la résurrection. Et donc, c'est l'immolation de Jésus implique la création du monde de la résurrection. Même si ce monde de la résurrection n'est pas encore entièrement rempli de toutes les résurrections de la chair. Et donc, quand il y a la messe, bien sûr qu'il y a le monde de la résurrection qui est dans le Christ Jésus, notre Seigneur, son âme glorifiée avec Saint Joseph. Les deux disparus dans le Père et le Fils. En sponsalité d'amour, à ce moment-là, la lumière de gloire réalise le monde de la résurrection. Bien sûr. Et la première matière présente dans le monde de la résurrection, au moment du sacrifice d'immolation de Jésus, elle n'appartient pas à Jésus, elle n'appartient pas à Saint Joseph, elle appartient à Marie. Jamais oublier ça. Pourquoi? Parce que si Jésus est mort, c'est par amour pour le Père. On s'en fiche de tout ça. Moi, je préfère avoir la foi des enfants. Je peux te dire une chose. Si tu veux la foi des enfants, tu auras une foi. Tu auras la foi de la franc-maçonnerie. Aujourd'hui, c'est comme ça. Oh non, non, c'est fatigant. Les enfants ne peuvent pas être la source de la révélation. C'est Dieu qui est source de la révélation. Elle se communique. Et c'est très important de savoir que l'Église vient d'en haut. On peut rester avachi. Hein. Ah, moi j'ai tout fait, mon père. Hein. J'ai fait le baptême, j'ai fait ma première communion, ma confirmation. Maintenant c'est bon. J'ai tout fait. Donc ça va. Ah bon. Eh ben nous, il faut qu'il y ait des rescapés qui. Comme joanniquement, apocalyptiquement, de manière mariale, immaculée, royalement, on peut dire ça, avec le grand roi, le grand monarque, le grand saint de la terre, qui aime être ailleurs que dans cette apostasie généralisée. Hein. Il faut qu'il y ait l'amour pour le Père. C'est pour ça qu'il y a la troisième messe, parce que si cette grâce n'est pas demandée tous les jours, elle ne peut pas être donnée. Et c'est le ciel qui a demandé qu'elle soit célébrée tous les jours. Jusqu'à l'avertissement. Sans un seul jour d'interruption. C'est le ciel qui l'a demandé. Vous savez ce que dit l'Épître aux Romains? Le père et la mère seront sauvés à cause de leurs enfants si ces enfants conservent la foi. Épître aux Romains, Épître aux Corinthiens aussi. Ça, mais si vous avez cette Vous avez ici cette doctrine apostolique qui indique que un papa et une maman, s'ils ont des enfants, ça dépend d'eux que les enfants gardent la foi jusqu'à leur mort. Qui fait la charité, ça dépend pas d'eux. Qui sont pratiquants des sacrements, ça dépend pas d'eux. Parce qu'il faut avoir beaucoup d'amour de Dieu pour vivre des sacrements et du fruit des sacrements. S'ils n'ont pas d'espérance, ça dépend pas des parents. Mais s'ils ont la foi, je dis bien, la lumière surnaturelle de la foi à l'intérieur d'eux, ça ne dépend que des parents. Parce que quand Dieu a créé, il nous a créé dans la grâce sanctifiante. Donc si un papa et une maman, ou un papa ou une maman, seulement un seul des deux, ça suffit. Chaque jour, prie, chaque soir, pour célébrer une mission invisible des personnes divines dans l'âme de chacun de ses enfants, nommément, les enfants garderont nécessairement la foi. Pourquoi ? Parce qu'ils recevront une grâce sanctifiante actuelle chaque jour. Et donc, ils auront un habitus dans la création de Dieu, de leur existence en leur âme, qui est toujours soutenue par la créature paternelle de Dieu et de leurs parents, puisqu'il faut l'amour de Dieu et l'amour du prochain, les deux se conjoignent ensemble par l'indivisibilité pour produire ce à quoi ils ont droit, c'est-à-dire à la lumière surnaturelle et divine dans leur âme. Et donc, ça ne dépend pas des parents que leurs enfants soient. Utilisent, je vais dire, ce carburant merveilleux et divin pour aller encore plus loin, aller dans la charité, aller dans l'espérance, aller dans les sacrements. Ça, c'est autre chose, ça ne dépend pas de nous. C'est pour ça, il ne faut pas se prendre la tête quand on a des enfants. Juste la foi, c'est tout. On les plonge dans la transverbération, dans la croix glorieuse. Nommément, les engloutit dedans, les enfants, c'est nous avec d'ailleurs. Et puis voilà, normalement, voilà, pour Iphigénie, pour Alphonse, pour Théodore, parfait. Pour Abigail. Enfin, je le fais tous les jours. Et bien tous les jours, mon enfant gardera la foi. C'est ça qui compte. Le bon Dieu ne me demande rien d'autre de toute façon. Et si, or c'est la foi qui justifie, c'est la foi qui divinement fait que lumineusement dans le monde invisible, on est ajusté à la substance dans le Verbe. Il ne faut quand même pas l'oublier ça. Donc pendant ces instants où je prie avec ardeur, même si ça ne dure qu'une seconde par jour, pour mon enfant nommément, il subsiste dans le Verbe. Il n'y a jamais de cause diminuante dans la grâce, attention. Donc le jour arrive 40 ans après où l'enfant est confronté, si je puis dire, à un miroir de Dieu, quoi. Son heure est arrivée, Dieu lui envoie son ange, son messager, et bien l'enfant se convertit, puis c'est tout. Il ne discute pas, il a la foi déjà. Et c'est Dieu qui décide. Et bien c'est pareil pour l'Église, c'est pareil pour l'Église d'aujourd'hui. Tu célèbres la troisième messe et tu obtiens cette grâce tous les jours. Cette grâce qui fait qu'on peut échapper à l'Antichrist invisiblement pendant 22 ans et demi. Impressionnant, n'empêche ça. Rentrer dans l'oraison de la croix glorieuse, dans le monde de la résurrection, alors qu'on est immolé d'amour. Vous savez, la mystique de la croix glorieuse, c'est ça la mystique catholique. Hein. C'est la mystique de Saint Jean de l'Apocalypse. C'est le disciple, celui qui demeure jusqu'à la fin. C'est le seul apôtre qui demeure jusqu'à la fin, c'est Jésus qui l'a dit. Et donc tous les soirs, il y a cette prière, et quand l'heure arrive, ça y est, c'est gagné. Et c'est normal, tant qu'il y ait cette exigence du ciel, que cette troisième messe se dise tous les soirs. Oh, moi j'aurais bien aimé hein, qu'on soit 500 000 prêtres à dire cette messe tous les soirs. Est-ce qu'il y en a 500 000 qui disent cette messe avec cette intention-là tous les soirs? Je ne crois pas qu'il y a 500 000 prêtres qui la disent avec cette intention-là. Je ne sais pas, je n'ai pas l'impression. Mais écoutez, j'avais un ami qui était prêtre qui s'appelait Benoît, le père Benoît, quand on était en classe ensemble. Et il disait toujours, si le reste gagne, je serai celui-là. Il est adorable, ce père Benoît. Il est toujours là, hein, il est curé à Compiègne. Il est curé à Compiègne maintenant. Il était un type remarquable, tout à fait merveilleux. Et quand on était comme ça en seconde, première terminale. Et puis après, s'il en reste qu'un, je serai celui-là. Et il disait ça avec une simplicité, une humilité, il était désarmant. Et il l'est toujours, j'en suis sûr. Eh bien, lui, il ne célèbre pas la messe pour ça, le soir. Ça, je le sais, parce que je le connais bien. Même les prêtres qui savent où est-ce qu'on est aujourd'hui ne le font pas non plus. Pourquoi, je ne sais pas. Bref, s'il n'en reste qu'un, comme dit les voix, l'épître d'aujourd'hui, s'il reste que ça, un seul rescapé, je serai celui-là. C'est pour ça, quand nous célébrons la messe, là, ensemble, on se trouve un petit peu en affinité avec le roi, parce que il est le seul. Lui, c'est sûr, ça, c'est sûr qu'il est seul. Le grand saint de l'Apocalypse. Celui contre les forces duquel le dragon, le démon, est complètement mobilisé sur un seul être humain. Ce saint que l'Église doit engendrer à la seconde qui précède le cinquième sceau de l'Apocalypse. Le démon est complètement concentré sur lui. Elle est sur le point d'enfanter dans la douleur. Et il est seul, il n'y en a qu'un. La révélation nous dit bien, il n'y en a qu'un. Eh bien, nous célébrons la messe parce que, du soir, j'allais dire presque principalement pour lui. Par amour pour lui. Pour pouvoir rejoindre. Parce que aimer quelqu'un, c'est le rejoindre dans son cœur et se nourrir jusqu'à l'ivresse. La plus parfaite de l'amour qu'il a dans son cœur. Parce que son amour est substantiellement humble. Et son humilité est substantielle d'amour. Et donc on célèbre la messe, il faut qu'une messe soit célébrée pour lui. Le rescapé. C'est bien, vous savez, on a quelque chose, vous le savez très bien, qui est très très semblable à ce qui se passait avant que l'Immaculée Conception n'existe. Saint Joseph était vraiment tout seul. Saint Vincent de Paul développe ça, faut voir. Et inspirer la substance essentielle de la nature divine de la première personne de la Très Sainte Trinité. Il aspirait intérieurement à chaque moment. Et dans un habitus, c'est-à-dire un pli qui était sa seconde nature. Et il était seul à faire ça. Et vous le savez, ça a duré 19 ans. Hein. Alors c'est pour ça que l'heure est arrivée au sommet du divin amour de Sacré-Cœur de Jésus, Marie et Joseph, un voile doit se déchirer une fois que l'unité est faite. Alors Marie, Sacré-Cœur de Marie, désigne le cœur, notre cœur, et Jésus désigne dans son Sacré-Cœur. Sacré-Cœur de Jésus désigne notre cœur pour y pénétrer, pour s'y plonger. Parce que Marie y a plongé aussi dans sa soif de spontanéité, parce que Saint-Joseph est là. L'heure de Saint-Joseph est arrivée. On peut dire ça, hein? C'est un moment unique quand même qu'on vit le soir à la messe. Hein. Et de planter invisiblement comme ça des croix de cristal, de palpitations tachyoniques venues du ciel, en le contemplant dans un pèlerinage de foi surnaturelle, c'est très important parce que du coup c'est une porte d'entrée pour y pénétrer dedans de manière contemplative par la foi et de découvrir ce que Jésus vit dans son âme en créant, parce que Marie l'y engendre, le monde de la résurrection. Avant d'y être envoyé par le Père et Marie en ressuscitant lui-même avec Joseph. Et c'est Marie qui envoie Jésus dans son corps de résurrection, puisqu'elle engendre la résurrection de Jésus, il ne faut jamais l'oublier, elle est la mère de Dieu, dans le Christ Jésus notre Seigneur. Qu'est-ce que vous voulez? Moi je ne peux pas vous dire une chose, c'est que le Concile Vatican II ait osé dire une chose pareille, c'est quand même énorme. Marie, mère de la grâce, de tout ce qui est créé dans la grâce, dans la participation à la vie divine, la participation à la résurrection, c'est une grâce créée. Donc, elle en est l'engendrante. C'est extraordinaire quand même de penser à ça. Hein. Parce que c'est le mystère de la croix glorieuse. On va créer. Alors, on cède de l'imaginaire, attention, hein, quand on crée des, comme ça mystiquement, charismatiquement, si je puis dire, bon. On accompagne, disons, parce que ça nous est demandé. Mais ce n'est qu'un signe. Mais c'est pour nous suivre Jésus qui rentre dans l'instant de ses 36 heures de son immolation à la tête de Marie et du Père et qui crée le monde de la résurrection d'immolation. Et ce monde de la résurrection d'immolation est créé. Et il faut voir ce que l'agneau crée dans ces moments d'immolation glorieuse. Il crée un monde glorieux, d'immolation glorieuse, et il voit ce qu'il crée. Et s'y enfonce avec le Père et avec son Père aussi, dans le sein d'amour du Père. Ce monde de la résurrection leur appartient à Saint-Joseph et à lui, et aussi à Dieu le Père, et à lui puisqu'il est le Verbe de Dieu subsistant. Dans ce monde de la résurrection, et le tout dans l'indivisibilité de Dieu, où on rejoint Marie assumée, qui accepte du coup d'engendrer dans le Verbe de Dieu la résurrection de la chair. Elle a apporté sa chair dans la foi. Et le premier élément de matière primordiale du monde de la résurrection de la chair vient de Marie. Ça, c'est impressionnant, ça. Autrement dit, le mystère de la croix glorieuse, c'est un mystère qui se contemple. On ne fabrique pas des trucs, on contemple. Vous comprenez ça? Que la vie de la foi, c'est une vie contemplative. C'est C'est pas seulement une vie mystique, au sens mystico, hein. C'est une vie contemplative. Je peux faire des œuvres mystico les plus sublimes du monde. Si ce n'est pas la vie contemplative, je n'ai rien fait. J'ai peut-être aidé d'autres qui, du coup, rentrent dans la vie contemplative à partir de là. Très bien. Mais moi, là où Dieu m'attend, c'est dans la vie contemplative, pour que la chose se réalise. Dans ce qu'elle signifie, et que l'engendrement divin se fasse. Et que la cause méritoire s'ouvre dans l'émanation du monde nouveau. D'accord? Vous comprenez? Bon, ça fait 3 ans et demi qu'on ne s'est pas vu, d'accord. Mais c'est pour ça qu'il faut un petit rappel, hein. Peut-être que tu te rappelles. Un petit résumé de résumé, quoi. Du béaba, hein. Parce que parmi les 7 péchés capitaux, il y a la paresse spirituelle, vous savez. C'est commun avec l'oubli, hein. Pour mettre du carburant à un péché capital de la paresse spirituelle. Et on remédie à la paresse spirituelle par la ferveur contemplative. Ça, c'est la doctrine de Saint Thérèse de l'Enfant Jésus. Je vous demande pardon si je vous ai blessé, je vous demande pardon si je vous ai dit les choses pas bien. Il a oublié. Ça fait trop longtemps. Mon Père, pour ceux qui t'abominent, pardonne-les, ils ne savent pas ce qu'ils font. Pitié, mon Père, pour l'abomination, le scandale du monde. Délivre-les de l'esprit de Satan. Dans le Verbe de Dieu et transfiguration. Pitié, mon Père, pour ceux qui l'oublient complètement. Redonne-leur le sens de l'accomplissement de l'Eucharistie. Pitié, mon Père, pour ceux qui, avec les enfants, t'en demandent pardon, jusque dans le sein des saints, d'être un amour éternel de Père, que dans la croix glorieuse, ils voient la force de leur rédemption. Pitié, mon Père, que ton royaume arrive, sauf là, il en est encore temps. L'heure est arrivée. Le temps est proche. Me voici. Jésus de Nazareth a vaincu la mort. Il vient vaincre le monde et le temps, et son royaume est éternel. Esprit, l'épouse, viens. Oui, Maranatha, viens, Seigneur Jésus, répande sur le monde entier les trésors de ton infini miséricorde. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation et délivre-nous du mal. Salut Marie, pleine de grâce, Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, je suis le fruit de vos entrailles, béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, bon pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, je suis le fruit de vos entrailles, béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes. Jésus, le fruit de vos entrailles, béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et je suis le fruit de vos entrailles, béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et je suis le fruit de vos entrailles, béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, je suis le fruit de vos entrailles, béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, je suis le fruit de vos entrailles, béni. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous.
Et avec vous.
Nous préparons la célébration du sacrifice divin et nous reconnaissons notre péché. Dit que le péché le plus grave de la faim, c'est le péché par omission. C'est suspendu à toi, tu ne le fais pas. Il n'y a pas de péché plus grave que celui-là. Depuis la création du monde, le péché par omission. Grecque du Saint-Père. Laissez tomber le péché, s'il vous plaît. Au sens courant du terme, c'est le péché par omission qui compte. À Maurice Laetitia. Et que les pasteurs soient attentifs à ça. Le temps passe devant l'espace. Et il faut évangéliser les nostalgies. Il faut évangéliser l'amour du Père.